Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, du son et du sens pour raconter les luttes d'hier et d'aujourd'hui, là où ça crée, là où ça craque.
En direct du studio 511, une émission qui aime le son, réalisée par Céline Hila, assistée de Lucie Valérie et Michel Bézikian à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, des mauvaises graines, apaches, blousons noirs, sauvageons, racailles, deux siècles d'histoire de la justice des enfants et des nouvelles graines avec la création radiophonique au Créadoc d'Angoulême.
La longue histoire, celle qu'on retrace dans Mauvaises graines, c'est d'abord une histoire de l'enfermement, de la maltraitance et de la violence sur des enfants qui sont des enfants.
Voilà. Pour moi, c'est un outil en fait, le Créadoc, c'est un outil politique. Créer du sensible, quoi.
Monsieur, c'est sérieux, les bruits qui courent ?
Un bruit court comme un écho aux Panama Papers, Swiss Leaks et autres LuxLeaks cette semaine, avec la mise à jour des Paradise Papers sur l'optimisation fiscale des super-riches et des multinationales, j'ai pensé au journaliste enquêteur Denis Robert.
Celui qui avait sorti seul l'affaire Clearstream.
Celui-là même.
Le même Denis Robert qui avait lancé l'appel de Genève contre les pratiques financières douteuses il y a 21 ans déjà.
C'est lui. Et que nous dit Denis Robert ? Que cette nouvelle affaire des Paradise Papers, c'est très bien, mais qu'on découvre un peu la lune. La preuve, c'est encore une fois l'ultra-libéral Gérard Longuet qui a vendu la mèche pour légitimer ce qu'ont révélé ces papers.
Il y a une réticence à l'impôt, et quand l'impôt est confiscatoire, tout ça est très logique quand on prend aux gens plus de 60-70%.
Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est une bonne chose ?
Totalement moral, c'est normal qu'ils se protègent.
Même si cela fait des centaines de milliards d'euros qui
ne viennent pas dans les caisses de l'État, mais tant mieux, parce que l'État le gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement.
Et c'est vrai que tant qu'on restera dans les indignations morales en éludant les questions vraiment politiques, les optimisateurs auront de beaux jours d'impunité devant eux. Alors pendant que les uns et les autres se confortent dans leur certitude, nous allons continuer à douter. Comme le doute des jeunes créateurs sonores qu'Antoine Chao est allé retrouver au Créadoc d'Angoulême.
Oui, le Créadoc, c'est le master documentaire de création et il nous intéresse parce qu'il s'intéresse au son avant tout. Et le doute, c'est celui des jeunes créateurs, mais aussi celui de la pérennité de cette filière universitaire.
Alors, un autre doute politique, cette fois, que Charlotte Perry nous emmène creuser, c'est celui qui concerne la justice des mineurs dans notre beau pays, qu'il soit blouson noir ou racaille.
Ouais, la semaine dernière, nous vous avions emmené à la rencontre des jeunes mineurs délinquants placés au centre éducatif fermé de Savigny-sur-Orge. Cette semaine, on continue de s'intéresser à la justice des mineurs avec l'historienne Véronique Blanchard, qui dirige le centre d'exposition Enfants en justice, et qui vient de publier « Mauvaises graines, deux siècles d'histoire de la justice des enfants ». Des apaches aux racailles, de la petite roquette aux établissements pénitentiaires pour mineurs, comment notre société prend-elle en charge la jeunesse difficile ? Une analyse historique essentielle à l'heure où jamais autant de mineurs n'ont été placés sous les verrous.
Avec des jeunes qui font courir les bruits, comme un bruit qui court, une histoire de l'enfermement des enfants, jusqu'à 17h sur France Inter. Oh
quoi ça, c'est qui
elle veut le coup, hein.
Qu'est-ce que vous racontez ?
Depuis des années, les prisons comptent toujours plus de mineurs entre leurs murs.
Mais toi, tu fais le malin, toi.
769 jeunes incarcérés en début d'année. Du jamais vu depuis 14 ans. Et cet été, la situation s'est à nouveau aggravée.
Non, arrêtez, mettez pas 10 ans, madame, arrêtez.
871 mineurs en cellule, plus 14% en un an.
Moi, mon âge, j'ai... Enfin... 16 ans, t'as encore rien fait de ta vie.
Comme un bruit qui court !
Antoine Chao,
Charlotte Perry.
Bonjour.
Guy Vanctil.
Ah ben voilà.
Hashtag comme
d'accord.
Un bruit.
À tout de suite. On est à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Et on vient d'arriver sur le site de la ferme de Champagne. Un immense site de 2 hectares qui appartient au ministère de la Justice, où se trouve le centre éducatif fermé, tout au fond. Et juste à l'entrée, c'est le centre d'exposition.
Bienvenue !
C'est marrant cet ancien...
Eh oui, internat professionnel de l'éducation surveillée. C'est le nom qu'on donnait à ces institutions
dans les années 45-50.
Et le panneau, là, il date de ces années-là ?
Ouais, exactement. De manière assez rigolote, hein. Il est même encore dans la ville de Savigny. C'est-à-dire qu'il y a des panneaux qui indiquent l'internat de l'éducation surveillée, alors qu'il n'y a plus d'internat d'éducation surveillée depuis les années 80.
Mais les panneaux sont restés.
Les panneaux sont restés. Personne n'est à changer. Voilà, vous êtes arrivés.
Et vous, vous dirigez ce centre d'exposition, alors Véronique Blanchard?
Oui, moi je suis la responsable du centre d'exposition depuis un peu plus de 10 ans. Et donc nous, ce qui nous intéresse ici au centre d'exposition, c'est de raconter l'histoire, ce qui permet ensuite aux visiteurs d'éclairer le présent. Ce matin, il y avait 7-8 jeunes qui étaient là dans le cadre d'un stage de citoyenneté. Donc c'est une mesure de la protection judiciaire de la jeunesse, ils venaient de Créteil. Et pour eux, c'est extrêmement important de pouvoir avoir accès à une histoire de la justice des enfants pour qu'eux-mêmes se resituent dans ce parcours-là. En revanche, il ne s'agit pas du tout de faire une histoire qui leur dise, vous voyez, avant c'était horrible et maintenant, voilà, ce que vous vivez, vous, est absolument formidable. Ce n'est absolument pas ni le message, ni la volonté de ce centre d'exposition. Ça me semble important de le souligner.
Ma cellule. Une pièce au mur nu et dont l'aspect vous glace. Un lit, une paillasse, où on dort par besoin. Comme distraction, des punaises en masse. Un lavabo au mur, les WC dans un coin. 4 mètres sur 2 et des murs de Bastille. Les meubles y sont fixes et le linge grossier. La croisée haut placée est close d'une grille. Une nuée de gardiens rôde dans l'escalier. Où donc est le printemps, l'air, la verdure? Liberté que l'on aime, que quand on ne l'a plus, il me faut aujourd'hui reposer sur la dure. Je regrette fort tous mes beaux jours perdus.
Alors on commence par où?
Alors on commence par la petite roquette, on commence par le début, c'est-à-dire que c'est une visite chronologique qui commence dans cet espace-là que vous avez ici avec cette fresque peinte et qui est cette fameuse photo des boxes de la chapelle de la petite roquette. La petite roquette étant la première prison pour enfants qui a existé en France, qui ouvre ses portes au tout début des années 1830 et qui les fermera 100 ans plus tard et qui est cette utopie d'un certain nombre de philanthropes du début du 19e siècle qui vont imaginer qu'on peut créer une prison pour les enfants qui n'ait aucun des inconvénients de la prison et que les avantages. Parce que justement, elle est faite pour des enfants et pensée pour des enfants.
Je suis jeune en entrant. Sortirai-je de même? M'en irai-je gracié, condamné ou mort? Après avoir gâché le bel âge où l'on aime, sortirai-je d'ici comme un vieillard en sort?
Tout ce qu'on essaye de montrer à travers les photos que vous avez là et à travers cette fresque peinte, c'est à quel point l'utopie de départ d'une prison idéale pour les mineurs va devenir un enfer total où le silence, la solitude seront la règle et où on va aller très loin dans cette organisation architecturale du total isolement et de la totale solitude. C'est ce que vous voyez sur la fresque qui est tirée d'une image qu'on a là. Et vous voyez là ce box. Donc un amphithéâtre rempli de box et dans les box des enfants qu'on a amenés là sans qu'ils se voient les uns les autres, le plus souvent avec une cagoule sur la tête.
Une cagoule ?
Une cagoule. Pour pas qu'ils se voient dans les espaces, par exemple, dans les couloirs de la petite roquette. Et ils ne peuvent enlever leur cagoule qu'une fois qu'ils sont dans leur box. Il ne faut pas qu'ils se voient jamais.
Hein, pourquoi?
On est dans l'idée que la promiscuité, et on sort, et là aussi c'est une photo sur laquelle une gravure sur laquelle on travaille avec les visiteurs, c'est-à-dire qu'on sort d'une période où les enfants, et là vous avez sur la gravure un tout petit garçon, qui est sur une paillasse dans un cachot collectif des prisons françaises. Donc on sort de ce moment-là du collectif où les enfants étaient mélangés avec tout type de criminels et tout petit d'âge. On pense que ça c'est absolument évité et on veut absolument imaginer, inventer un système spécifique pour la prise en charge des enfants de justice. Donc on pense qu'en créant une prison qui ne sera que pour les enfants, où il y aura un isolement et une solitude totale, on arrivera à la rédemption. Ce sont les mots de l'époque. Hein. Les enfants sont devenus, d'une certaine manière, assez fous. On a des indices qui nous disent que le taux de mortalité était extrêmement important à la Petite Roquette, avec des tentatives de suicide, des scarifications, des enfants qui arrêtent de se nourrir, des enfants qui tombent malades, des enfants qui sont en dépression, même si à l'époque on n'emploie pas ce mot-là. Donc voilà, une situation sanitaire extrêmement problématique. Mais il faudra 100 ans pour faire fermer la Petite Roquette, ce qui n'empêche pas que la France n'a jamais expérimenté la non-incarcération des mineurs.
En prison, c'est l'ambiance pénitentiaire. Là-bas, il n'y a pas le droit au sentiment. La jungle. C'est vraiment la jungle.
Avec la Petite Roquette, l'ouverture de la Petite Roquette en 1830, c'est la première fois que la justice pense qu'il faut un lieu spécifique pour détenir les enfants. Et c'est les prémices d'une justice pour les enfants qui s'installe.
Ouais. Et puis devant les critiques de la Petite Roquette, on va se dire, mais peut-être qu'il y a d'autres espaces où on pourrait redresser ces enfants, qui sont certes coupables, mais surtout innocents parce qu'enfants. Et donc, en 1850, on va imaginer un deuxième dispositif extrêmement important qui montre la spécificité de la justice des enfants et qui sera la colonie agricole pénitentiaire, celle que mes grands-parents appelaient la maison de correction, la maison de redressement, qui ne sont plus du tout pensées comme la Petite Roquette. Il ne s'agit plus d'une prison. On n'y est pas condamné à une peine, mais on y est placé. On est dans un collectif, et vous voyez par exemple l'image qui est là, à quel point les enfants sont nombreux, hein, puisque si vous regardez bien cette carte postale de la colonie de Saint-Maurice, hein, qui est à la Motte-Beuvron, donc là on est au milieu de la Sologne, vous avez des enfants qui vont partir à la promenade, en fanfare, et si vous regardez bien l'image, vous avez plus de 400-450 enfants. À Maitré, qui est la maison mère, celle par laquelle toutes les colonies agricoles pénitentiaires ensuite se sont créées. Donc à Maitré, près de Tours, il y a eu jusqu'à 600, 700, 800 enfants. Les enfants, à la différence de la Petite Roquette, sont toujours ensemble. C'est-à-dire que là, ils n'ont plus jamais le droit d'être tout seuls. Alors, ce qui est très intéressant et ce qu'on travaille beaucoup avec les visiteurs, c'est d'essayer de montrer, à la fois pour la Petite Roquette et pour les colonies agricoles pénitentiaires, à quel point au départ le projet, c'est d'améliorer le sort des enfants et comment certaines institutions, qui sont véritablement des institutions totales, vont très vite perdre de vue la philosophie de départ.
Une des finesses des inventeurs de la colonie de Maitré, c'est d'avoir su ne pas mettre de muraille. Quand nous étions en Maitré, il n'y avait que des haies de laurier et des bandes de fleurs, de guet et de pensées, et c'est beaucoup plus difficile de s'évader quand il s'agit simplement de traverser un parterre de fleurs que de traverser une muraille. Donc, d'une certaine façon, les inventeurs de Maitré n'étaient pas complètement sots non plus. Ils avaient inventé cette poésie, ils nous avaient terrorisés avec des pensées, des œillets, des lauriers, etc.
Le fameux écrivain Jean Genet va dire toute la souffrance et toute la difficulté à vivre une partie de son adolescence à Maitré, enfermé par les roses de Maitré. C'est toute la complexité de ces institutions qui semblent ouvertes, hein, qui semblent à vocation corrective et qui en même temps vont réunir tous les éléments d'un lieu totalement disciplinaire. Et bien sûr que ces lieux étaient des lieux de la grande maltraitance. Et c'est très intéressant puisque la fin du 19e siècle va être très différente de cette première moitié du 19e siècle, puisqu'on va passer de l'idée d'un innocent coupable qu'on peut redresser et corriger à un criminel né pour lequel plus rien n'est vraiment possible. On avance dans la visite pour aller vers cette période critique de la fin du 19e siècle,
de cette peur des Apaches. Et donc, il y a ici des documents qui essayent d'évoquer cette période très particulière du criminel né. Aussi bien des articles de journaux autour des Apaches, on y reviendra, que la question de la planche de Lombroso. Lombroso étant ce criminologue italien qui va développer cette idée qu'il y a une sorte d'hérédité du crime et que comme c'est héréditaire, c'est morphologiquement visible. Et donc vous avez un certain nombre de caractéristiques physiques qui permettent de déterminer le type de criminel que vous avez en face de vous. C'est d'ailleurs à partir de cette idée-là qu'ensuite en France on va développer les photos, profils et faces et faire comme ça des types de physique criminelle. Les nez des voleurs, les yeux des pervers, hein, les oreilles des violeurs, hein, etc., etc. Cette idée du criminel né de la fin du 19e siècle va s'allier à cette peur de la jeunesse qu'on va avoir à la même période. Ce que aussi Louis Chevalier disait de classe laborieuse, classe dangereuse, qui va beaucoup développer l'idée que les classes populaires, les classes ouvrières, vont être perçues par les classes dominantes comme des classes dangereuses, comme là, où on trouve le plus de criminels, de délinquants, etc. Et les jeunes garçons des classes populaires de cette fin du 19e siècle et début du 20e siècle vont considérablement émouvoir l'opinion publique. On va considérer que c'est véritablement la première bande de jeunes, qu'ils sont gratuitement violents, qu'ils ont une tenue barbare, des pantalons pas de def, des chemises à grand col, qu'ils dansent des danses de sauvages, la java au bord de l'eau, au bord de la Seine, et qu'ils aiment la violence pour la violence, c'est-à-dire qu'ils vont braquer le bourgeois, mais juste pour l'adrénaline que provoque le braquage du bourgeois. Et vous voyez la une ici du Petit Journal en 1907. Trop de jeunes paresseux, trop de jeunes criminels, la criminalité juvénile a presque triplé en 50 ans. Il y a une peur de la jeunesse très forte hein, en cette fin du 19e siècle. Et puis, corollairement, la criminologie qui commence à imaginer donc qu'on est criminel. Hein. Si on est criminel, il n'y a quand même plus beaucoup de raisons d'imaginer qu'on va pouvoir vous corriger ou vous redresser, puisque vous avez ça dans votre sang. Donc les deux ensemble font qu'effectivement, on va se dire qu'il vaut mieux punir, enfermer, éloigner, se protéger pour pouvoir ne pas contaminer l'ensemble de la population. Et on peut dire que les heures les plus sombres des colonies agricoles pénitentiaires sont ces années 1880-1920.
Quand on arrivait, on nous donnait une paire de draps, deux couvertures, une tête d'oreiller et on nous emmenait au lazaret. C'était une grande pièce immense avec ce que j'ai toujours appelé des cages à poules, des cages grillagées devant, sur les côtés et sur le dessus.
Et donc on invente ce système qui permet d'observer les enfants en permanence tout en les séparant en permanence.
Il y avait un lit, une table, une chaise. On vous laissait là, toute seule.
Et là on est à Cadillac, à côté de Bordeaux, dans une école de préservation. On a aussi cette image de cassage de cailloux. Donc là, on est à côté de Angers, à Saint-Hilaire, et les enfants sont dans une cour, à genoux, en train de casser du caillou. Et on est dans une imagerie qui rejoint beaucoup les imageries du bagne des adultes de Cayenne. Ce qui d'ailleurs, c'est une de ces images qui fera dire aux journalistes dans les années 30-35, quand il va y avoir des scandales autour de ces institutions, les journalistes y parleront de bagne d'enfants.
Je suis arrivé ici à 11 ans. Et on devait casser les cailloux, c'était pas les grands qui cassaient les cailloux. C'était les gosses de 7, vous entendez bien, je ne mens pas, de 7 ans à 13 ans.
Un beau jour, un pauvre gamin, l'âme pleine d'insouciance, commet un futile larcin, imputable à l'inconséquence. Si son père a de la fortune, les magistrats souriront de pitié. Mais s'il est un fils d'ouvrier, on l'enverra jusqu'à la 21 dans un de ces bagnes maudits où l'on torture les petits. Honte au bourreau de l'enfance, lâche créateur de souffrance. Écoutons la malédiction s'élever des maisons de correction. Parents, on torture vos gosses, entendez leurs plaintes atroces. Honte à leurs chaouches malfaisants, abolissons tous les bagnes d'enfants, abolissons tous les bagnes d'enfants.
Comme un bruit qui court.
On est en 1920, 1930, et la Première Guerre mondiale est passée par là. Et donc, du coup, on n'a plus du tout en tête le souvenir des Apaches, ou le souvenir même du criminel né, puisqu'il y a un déficit chronique terrible de l'enfance et de la jeunesse dans les années 20-30. Et la jeunesse devient quelque chose d'extrêmement positif.
Précieux.
Précieux, prometteur, indispensable. Et c'est là aussi où il est important, et on insiste beaucoup sur cette idée qu'il y a une forme d'invention de la figure du délinquant et du délinquant juvénile. C'est-à-dire que ce délinquant juvénile qui prend beaucoup de place dans les médias dans les années 1900-1910, hein, l'Apache, disparaît totalement dans les années 30. Est-ce que vraiment il a disparu? Est-ce que vraiment il n'y a plus de délinquance juvénile? Est-ce qu'il n'y a plus de groupes de jeunes qui se réunissent pour faire parfois des mauvais coups? Bien sûr que non. Ils sont là. Sauf que la perception par rapport à la jeunesse a changé. On ne veut plus les voir, on ne les voit plus, ils n'inquiètent plus, ils ne sont plus une figure de la dangerosité. Les institutions, elles, continuent leur travail, continuent à recevoir des jeunes et continuent à recevoir des jeunes dans des conditions absolument infernales. Et il va y avoir des scandales, il y en a eu avant, mais sauf que dans l'entre-deux-guerres, il va y avoir une véritable émotion populaire par rapport à ce qui se passe dans ces institutions.
Bandit, voyou, voleur, schnapp.
On est en 1934, à Belle-Île-en-Mer. Vous voyez, les enfants sont à table. On est au réfectoire et un enfant va manger son fromage avant sa soupe. C'est interdit par le règlement. Deux surveillants arrivent, l'attrapent. L'enfant est envoyé au mitard et ce soir-là, ça provoque une révolte.
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Les enfants vont se battre, vont casser, vont s'enfuir. Plus de 100 enfants qui s'enfuient de la colonie agricole pénitentiaire.
Brandis, voyous, voleurs, schnappants.
Sauf que le clocher de la maison de correction va se mettre à sonner. Et ça, c'est l'alarme. L'alarme donnée aux habitants de Belle-Île. Si la cloche sonne, ça veut dire qu'il y a des évadés, qu'il y a des rebelles, qu'il faut aller les récupérer.
Qu'est-ce que c'est hurlement ?
Brandis, voyous, voleurs, schnappants, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant.
Pour chaque enfant qu'on récupère, on a la récompense, une pièce de 10 francs. Tous les enfants de Belle-Île, ce soir-là, seront récupérés. Sauf que cet événement va arriver aux oreilles de Jacques Prévert, qu'il écrit très vite un poème, La chasse à l'enfant, bandit, voyou, voleur, schnappant. Et Jacques Prévert va véritablement être celui qui va, avec ce poème, déclencher une véritable campagne de presse qu'on a représentée ici contre les bagnes d'enfants.
Il avait dit « J'en ai assez de la maison de redressement » et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents et puis il avait laissé étendu sur le ciment « Bandit, voyou, voleur, schnappant » Maintenant, il s'est sauvé.
Ça va faire régulièrement la une de Paris Soir jusqu'à un jour de 1937 où Alexis Danan, dans Paris Soir, va dénoncer la mort d'un adolescent de 17-18 ans, Roger Abel, qui va mourir suite à un passage de 150 jours au mitard. La mort de Roger Abel est le drame de trop qui fera que le ministère de la Justice demande à ce que ça s'arrête et qu'on essaye de réformer en profondeur les colonies agricoles pénitentiaires et le sort réservé aux enfants de justice.
Là, c'est une vue cache pour enfants. On voit un petit enfant derrière des grillages.
enfermer un enfant pendant 60 jours au mitard, lui donner de la nourriture une fois tous les 4 jours et parfois en plus lui mettre une camisole de force, on n'est pas loin de pouvoir parler de torture. Et vous avez là une camisole de force qu'on a retrouvée dans un établissement qui vous montre que des enfants ont été bloqués dans cette camisole de force. Je vous parle là de la France, donc, des années 1920-1930.
Elle est toute tachée, en plus.
Oui, on ose à peine imaginer pourquoi ces taches sont là.
Ouais, c'est...
C'est dur. C'est une histoire que je raconte pourtant depuis longtemps, mais c'est une histoire noire, une histoire dure, une histoire sévère. Mais voilà, c'est une histoire qui a touché des milliers d'enfants et il est extrêmement important de pouvoir raconter cette histoire, de redire la violence institutionnelle subie en mémoire de ces enfants.
La radiodiffusion télévision française présente « Il n'y a plus de bagne d'enfants ».
La nation sait bien que ses fils et ses filles, tous ses fils et toutes ses filles ont mis quelques malheureux traîtres qui se sont livrés à l'ennemi ou lui ont livré les autres et qui connaissent ou connaîtront la rigueur des lois. Hormis cela, tous les fils de la France marcheront la main dans la main.
On avance dans le temps et on se retrouve après 1945 avec ces images très importantes du préambule de l'ordonnance de 1945 et de toute cette période post-Seconde Guerre mondiale qui voit naître ce qu'on appelle aujourd'hui la justice des enfants. Le 2 février 1945, le gouvernement provisoire, alors que la paix n'est pas encore signée en France, rédige ce texte qui va poser comme principe qu'il faut comprendre l'enfant et le pourquoi du geste délictuel posé par l'enfant avant de le punir. En gros, l'ordonnance de 1945 vient imaginer la primauté de l'éducatif sur le répressif. On sort aussi de 100 ans de maison de correction. On sort des scandales des bagnes d'enfants. On sort d'un second conflit mondial extrêmement violent pour l'opinion publique, la population française. Le taux, d'ailleurs, de délinquance des mineurs est extrêmement fort. Et pourtant, la réponse politique et de l'opinion publique, c'est de dire « oui, mais c'est de notre faute ». S'ils commettent des actes de délinquance, s'ils sont violents, s'ils ont des armes, si parfois même ils tuent, on est après la Seconde Guerre mondiale et les armes circulent largement à l'époque, c'est pas de leur fait à eux, c'est de notre faute à nous, société, qui n'avons pas su éviter la Seconde Guerre mondiale, qui n'avons pas su éviter le chaos dans lequel ils ont vécu leur jeunesse. C'est de notre responsabilité de les remettre dans la société pour qu'ils puissent construire la France de demain. Donc de manière un peu paradoxale avec notre regard contemporain, c'est bien parce qu'il y a une explosion de la délinquance juvénile qu'on va faire un texte très éducatif.
Le juge des enfants, s'il comprend bien son rôle, ne doit plus être un juge répressif. Il s'agit de ne plus être répressif et de séparer l'acte de l'auteur de l'acte. Tant qu'il n'aura pas été possible de prévenir tous les délits et tous les crimes commis par des jeunes, je pense qu'il sera toujours nécessaire d'avoir des institutions de rééducation dans lesquelles nous essayons de reclasser les enfants que le délit ou le crime a déclassés.
Oui, mais alors précisément dans ces deux domaines, de la prévention et de la répression, je voudrais savoir quel est
le rôle... Il ne s'agit pas de répression. Il s'agit de rééducation d'enfants qui ont sauté le pas.
Oui, d'accord.
Et donc toute la philosophie des années 50 et 60, c'est d'essayer de trouver un dispositif pour connaître les enfants, pour comprendre les enfants et pour savoir comment faire en sorte d'expliquer à la fois l'acte de délinquance et surtout le fait qu'il ne recommence pas l'acte qu'il a posé. Donc on va inventer un lieu, Savigny-sur-Orge, entre autres, qui va être un centre d'observation où on place l'enfant pendant 3 mois et on va l'observer pendant 3 mois pour pouvoir faire un très beau rapport au magistrat qui ensuite pourra prendre la bonne décision concernant le traitement éducatif de l'enfant.
Ça, qu'est-ce que tu racontes là? On te demande d'écrire, de raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as raconté?
Je travaillais à Bagnolet quand 3 agents du commissariat de police de Lille m'arrêtent, me demandent mes papiers, je leur donne. Il m'a demandé ce que je faisais là. Je leur dis que j'étais parti de chez mon père. Ils m'ont amené au Quai de Gèvres et ensuite au dépôt, puis à Savigny.
Quand ils t'ont arrêté, ça faisait combien de temps que tu étais parti de chez toi?
Ça faisait 2 mois, monsieur.
Pourquoi tu es parti de chez toi?
Parce que mon père, il me tapait tout le temps.
Et là, on va pouvoir rentrer dans, dans la deuxième partie du centre d'exposition, qui est restée quasiment en l'état et qui permet aux visiteurs de découvrir ce qui était l'aile d'accueil du centre d'observation de Savigny-sur-Orge tel qu'il a fonctionné entre 1945 et 1970. Et en 1945, l'éducation surveillée construit ce couloir et ses chambrettes. Alors on va appeler ça des chambrettes, mais enfin c'est des cellules. Hein. Regardez, elles font moins de 4 mètres carrés. Il y a à peine la place pour un lit, une chaise.
C'est une toute petite porte vraiment très étroite. Et ouais, c'est...
Il n'y a pas toujours de fenêtre et le système de porte est totalement centralisé. C'est-à-dire qu'un éducateur qui travaille à Savigny-sur-Orge a des grosses clés. Il met une des énormes clés dans ce système de serrure que vous avez là.
Qui est donc le long du mur à l'entrée.
Et il tourne la clé et ça fait un système centralisé qui permet d'ouvrir toutes les portes en même temps et surtout de les fermer tout en même temps. Donc c'est vraiment très impressionnant de voir à quel point l'histoire ne s'efface pas d'un claquement de doigts et qu'il ne suffit pas le 3 février 45 de décider qu'on va tout changer pour pouvoir tout changer dans les esprits et dans les murs.
Le jour que je suis arrivée ici, ça m'a fait un peu effrayer. On aurait dit qu'on était en prison. Surtout quand je voyais les veilleurs qui passaient pour voir si tout le monde était là et si personne avait essayé de s'enfuir. Ils regardaient aussi les serrures pour voir si elles étaient bien fermées. Quand je voyais ceux qui avaient fait leurs 8 jours à l'accueil et qui partaient au pavillon, j'aurais bien voulu être à leur place.
On ne veut plus être dans l'arbitraire des maisons de correction et on veut être le plus scientifique possible. Donc on va beaucoup utiliser les nosographies de la période d'après-guerre.
Quoi ?
Les nosographies, c'est les classements faits par les psychiatres des types de normaux, anormaux qu'il peut y avoir dans la société. Donc la nosographie va aider à classer les enfants de la ferme de Champagne. Donc on va avoir par exemple ce petit cuit. Donc on va appeler les débiles, ceux qui sont pervers, etc., etc. Et chaque dominante entraîne l'enfant dans une catégorie qui est représentée dans la ferme de Champagne par un pavillon. Alors bien sûr, on ne va pas appeler ça le pavillon des débiles, ni le pavillon des caractériels, on va leur donner des noms de province. Aquitaine, Bretagne, Gascogne. Les adultes sachant ce que ça représente, les enfants, soi-disant, ne le sachant pas. En même temps, quand vous regardez les 400 coups de François Truffaut, et François Truffaut est passé dans une annexe de Savigny-sur-Orge, vous voyez que certains n'étaient pas dupes hein, et qu'ils savaient bien à quoi correspondaient les noms de province.
Canaillan, chez la psychologue.
Si elle laisse tomber son crayon, ramasse-le. Mais regarde pas ses jambes. Sinon, c'est marqué sur ton dossier.
Dossier ? Mais quel dossier ?
Bah oui, c'est ce qu'on sait sur toi, c'est ce que pense le docteur, ce que pense le juge. Enfin, même ce que pensent les voisins de tes parents. Remarque bien que moi, mon dossier, je le connais par cœur. Je sais qu'il y a marqué que je suis un instable psychomoteur à tendance perverse.
Et si je dis des conneries exprès comme ça, pour
bah
déconner ?
Bah alors là, t'es bon pour Sainte-Anne. Et puis à Sainte-Anne, on te fait passer le 38e parallèle.
Vanel ?
Oui.
Et beaucoup d'enfants hein, vont faire des tentatives d'évasion, soit dans les années 50 ou 60. La plupart, quand ils rentreront de fugue, seront conduits directement au mitard.
Il faut poursuivre la libéralisation de la société française en faisant progressivement disparaître les dispositifs répressifs, ceux qui datent du temps de ce que j'appellerais le gouvernement par la peur.
Donc c'est à partir des années 70 vraiment que voilà, la philosophie de l'ordonnance de 45 vraiment se met en place.
Oui, là encore, contexte, hein, on est dans un contexte de boom économique, de plein emploi.
Après mai 68.
Hein. Voilà, après mai 68, d'une France qui va très bien, qui pense que ça ne s'arrêtera pas. C'est donc le moment d'une très grande ouverture des institutions de la justice des enfants. Il n'y a plus de foyers fermés, il n'y a plus que des foyers ouverts, et on développe surtout de manière massive le milieu ouvert. Bon, il reste beaucoup de travail à faire historiquement hein, pour aussi voir les limites de ces moments-là. Il y a certainement des choses qui expliquent aussi le retournement de la fin des années 90 et des années 2000.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles ? On va vous en débarrasser.
Tout d'un coup, le modèle à nouveau se recrispe.
Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose.
Le contexte économique a beaucoup changé. La crise est là, et elle est bien installée. La peur de l'avenir et une société qui se rigidifie, qui prend peur de sa jeunesse et qui va donc, de manière assez majoritaire, demander au pouvoir, aux institutions, à la politique, à la loi, de durcir ses modes de décision et de prise en charge. Et donc, tout le mouvement de la fin des années 90 et des années 2000, on va assister à quelque chose qui détricote, d'une certaine manière, l'après 1950-60-70. Avec toujours cet idéal qui est d'essayer de trouver et d'imaginer une prison qui aurait aucun des inconvénients de la prison et tous les avantages. Quasiment mot pour mot ce qu'on a dit au moment de la création de la Petite Roquette.
Des Apaches aux racailles, on retrouve exactement les mêmes discours. Rien de nouveau, en fait.
Oui, c'est pour ça que je pense que l'histoire permet ensuite de réfléchir au présent et au contemporain. Et ce serait intéressant de pouvoir encore et toujours répéter que la longue histoire, l'histoire de ces 200 dernières années, montre le peu d'efficacité de l'enfermement sur les mineurs. Après, malheureusement, il ne suffit pas de connaître l'histoire pour ne pas la répéter.
Quoi ça, c'est qui le veut le quoi Là j'ai mal baisé, donc il a un sourire mauvais. Oh, ils sont mon mais là c'est tous des fils de pute, je les baisse leur mère les vues. Voilà. Voilà, c'est tous des fils de pute. Moi je suis là, c'est tous des fils de pute, je les baisse leur mère les vues.
Après un passage en prison, 3 mineurs sur 4 ont à nouveau affaire à la justice dans les 5 ans qui suivent leur sortie.
Quand l'histoire se répète, le livre de Mathias Gardet et Véronique Blanchard aux éditions textuelles, 2 siècles de l'histoire de l'enfermement des enfants, la mauvaise graine. Ça c'est le livre, mais Antoine Chao nous emmène maintenant à écouter la nouvelle graine, celle des créateurs radiophoniques.
Ici tu vois, ils ont des kits de tournage tout prêts pour partir en reportage hein, ici. Il y a le Faustex, il y a tout ça, le micro, Sagnazer, le LEM.
Il y a les chops au-dessus.
Là.
Ouais. Ne pas enlever la bonnette, ouais. Ouais. Ça c'est la base.
Ouais, c'est la base. Il y a les couples là dans les boîtes aussi, enfin voilà.
Eh bien, ça commence dès la première semaine. On a une semaine seulement d'écriture de reportage, un peu aller voir à droite à gauche en ce qui concerne nos sujets. Et puis après, ben, on nous donne l'enregistreur, le casque, le micro, et puis ben... Allez-y.
Oui, direction Angoulême, pour vous présenter le CréaDoc, le master de documentaire de création, le seul en France à travailler le son et rien que le son en première année. Et ça nous plaît parce que c'est un vrai travail sur l'écriture radiophonique qui est enseignée. Mais cette filière universelle est fragilisée et ça nous plaît pas. Surtout quand la création radiophonique connaît une nouvelle jeunesse avec le podcast et sa multitude de productions indépendantes qui déboule sur le web, Arte Radio qui vient de fêter ses 15 ans et toutes ses dents, ou Fonur Gianova qui continue à son université d'été de la radio. Allez hop, direction le CréaDoc.
Bonjour messieurs, d'ici quelques instants, notre TGV desservira la gare d'Angoulême. Nous arriverons en gare d'Angoulême sur la voie 1.
Au niveau sonore, je dirais que ce serait un son comme le son d'un espace vide qui grouille de bonne humeur et de couleur, je dirais. Voilà.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Vous enregistrez ? Ça sert à quoi ?
Documentaire de création. Il y a un côté poétique en fait, je pense. C'est pas du journalisme, donc on n'est pas là pour apporter de l'information pure, je crois.
Laisse-toi aller, mets-toi à l'aise, mets tes charentaises, pose ton casque sur tes oreilles, écoute les documentaires des étudiants du CréaDoc.
Salut. le CréaDoc, c'est la raison pour laquelle je suis venue en France, en fait. Ça a tout changé. Je ne savais pas que j'allais être admise et quand même, je suis venue. Je suis en train de me former, ce qui a été très difficile parce que le CréaDoc m'a forcé à réfléchir à ma façon de poser des questions, à ma façon d'écouter, de... Même avec toute ma formation de journaliste et mes années d'expérience, j'arrive ici et je sens que je suis petite de nouveau.
Parce que le documentaire n'est pas qu'une chose sérieuse.
Il va faire quoi ?
Parce que toi, auditeur qui m'écoutes, tu es sensible. Tu souhaites découvrir le monde, les choses qui t'entourent.
Tu
c'est quoi ton sujet, Tim?
Parce que les oiseaux qui...
Je sais pas, en une phrase, c'est hyper dur.
Je m'appelle Jimmy, j'ai 25 ans et je suis en M1 au Créadoc. Le Créadoc, c'est un master de l'université de Poitiers, qui est basé à Angoulême, au sein de la cité de la BD. Et on y apprend une année de radio, une année de film, et on y apprend l'écriture documentaire.
Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait eu quelques mobilisations en début d'année, hein, qu'il y avait de l'inquiétude sur l'avenir du Créadoc, sur le fonctionnement, la pérennité de ce master.
Bah, oui, c'est qu'on on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'intervenants extérieurs de programmer. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée du Créadoc. C'est-à-dire que, certes, c'est un cadre universitaire, mais on a des intervenants professionnels, issus de grands médias, dont Radio France, dont Arte Radio, pour la première année en radio. Et ça, c'est vraiment ce qui fait qu'on a aussi envie de venir au Créadoc. Et donc, il a fallu un petit peu... on va dire se mobiliser, mais en tout cas, il a fallu aller taper un peu du poing sur la table, dire que la situation n'était pas cohérente et que nous, on voulait avoir nos intervenants.
Transmis à l'ensemble de la promotion.
Nous terminons une réunion et on recevra une délégation.
Ça marche.
Donc on s'est adressé au doyen de l'UFR en question et puis voilà, ils nous ont entendus, ils ont résolu le problème administratif et puis maintenant on a enfin nos intervenants. Mais disons qu'on a eu un début d'année un peu chaotique.
Moi je m'appelle Bastien, je suis étudiant au Créadoc depuis septembre.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a soutenance au Créadoc, c'est ça?
Ouais, exact. C'est-à-dire que c'est vendredi, c'est notre rituel, on écoute tous les travaux de la promo, c'est-à-dire qu'on est un groupe de 14 personnes et chaque semaine on doit réaliser des pièces radiophoniques. Et voilà, le vendredi c'est le jour de l'écoute collective et aujourd'hui c'est dédié à un exercice qui s'appelle 3 interviews, c'est-à-dire c'est mélanger 3 personnages et puis réaliser une écriture de montage à partir de ça.
Et pourquoi t'as voulu faire le Créadoc?
Ah ben parce que je suis passionné de radio, j'adore la radio. Donc après moi j'en ai fait de manière autodidacte pendant plusieurs années, mais là j'avais envie de m'accorder une parenthèse, prendre du temps pour développer une écriture plus personnelle, parce que comme je travaillais, j'avais pas forcément énormément de temps à consacrer à cette passion. Et là, je me suis dit, je vais prendre 2 ans complets pour pouvoir développer l'écriture, la réalisation. Et voilà. Enfin, c'est un peu une chance aussi de pouvoir faire ça, d'accorder vraiment toute la semaine, toute l'année entière à de l'écriture. Je trouve que c'est passionnant, quoi. Je connaissais des gens qui avaient fait cette formation, donc qui m'ont... Au départ, c'était des amis avec qui on pouvait échanger des choses plutôt sur Nantes. Et ils m'ont conseillé de faire cette formation parce que ça leur avait apporté beaucoup. Après, il y a aussi d'autres endroits où on peut faire de la radio. C'est pas forcément dans le cadre universitaire. Ça peut être pendant des événements comme Utopie Sonore ou même des choses plus informelles. Il y a des groupes aussi qui existent qui font de l'écriture radiophonique.
Fonurgianova à Arles, oui, voilà. Ils font des stages déjà de perfectionnement.
Sûrement sont très intéressants, qui peuvent durer 10 jours. Donc après, c'est sur une période de 10 jours. Il faut aussi un financement pour y accéder. Donc c'est ça aussi le problème. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas multiplier les stages quand on veut en faire beaucoup. Des fois, ça coûte assez cher. Et quand on veut en faire énormément, il faut s'organiser autrement.
Donc là, c'est une fac, quoi. C'est la fac.
Voilà, c'est un master.
Quoi, toi, ce matin, alors?
Donc, moi, j'ai rencontré une famille... à Menucourt, à côté de Cergy-Pontoise. En fait, je travaille sur le sens du toucher. J'ai rencontré un enfant qui est sourd, aveugle, qui communique avec ses parents uniquement par le toucher, puis avec aussi quelques... Enfin, c'est surtout sur la vibration, quoi, voilà. Donc j'utilise en particulier un micro-contact pour essayer d'occulter un petit peu les oreilles et voir comment, par la vibration, il peut se passer aussi des choses. Voilà, donc j'ai fait une petite pièce qui s'appelle Micro-Contact.
Alors,
on y va, hein, ouais.
On est réunis pour écouter vos travaux, sachant que l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire et à faire des propositions, surtout à réfléchir sur le sujet et pas à juger des œuvres abouties. Voilà.
Ah, la peau, c'est vraiment un organe bizarre. C'est dingue, hein, c'est...
Oui, il y a plein de trucs qui passent par la peau, en fait.
Ouais, ouais, c'est vachement... Plein de capteurs sensoriels. Là, je le vois parce que quand je fais ça... Quand je fais ça, le gratter un peu fort... Enfin, pas un peu fort, mais pour gratter, quoi. Ils sont... Ça fait une différence. Quand je fais juste ça, là, je sens en dessous de mes doigts sa peau qui granule. Tu vois, ça, c'est... Même on peut le voir, hein, des fois... Ah, c'est un organe génial, la peau. Je crois qu'il kiffe. Monsieur ne boude pas son plaisir. Là, tu fais quoi? Non, c'est pas là.
Micro contact de Bastien Lambert.
Lima, aïe, maman, elle est prête. Tu viens? Il vient.
J'ai dans la main un micro-contact qui, comme son nom l'indique, réagit uniquement au contact. La gorge. Le nez.
Niveau radiophonique, ce qu'amène le Créadoc, je crois que c'est une des seules écoles aujourd'hui qui ouvre la possibilité de créer assez librement, sans format.
Documentaire de création. Il y a un côté poétique, en fait, je pense. C'est plus une vision qu'on porte sur le monde, qu'on a du monde, une vision personnelle sur un sujet ou une personne. Et...
Alors, petit exercice de style, j'ai 45 secondes pour écrire les mots auxquels je pense. Quand je pense au Créadoc, moi je m'appelle Nicolas et j'en suis sorti au mois de juin dernier et j'y ai passé donc 2 ans. Donc, radiophonie, cinématographie, la documentaire de création, la découverte. Qu'est-ce que c'est le réel, la réalité, la subjectivité, l'intention. Voilà, puis c'est aussi des intervenants, des moyens pour nourrir un désir de création. Et je crois que c'est pas mal l'emprunt aussi de l'éducation populaire. Et donc là, il y a aussi des bribes de souvenirs de ces 2 ans et pas mal de projets collectifs. La radio, Bulle éphémère, les rencontres documentaires, la Caradoc, et là, il y a mes colocs qui toquent.
Les chemises à carreaux.
De la merde.
Les poils dans le nez.
De la merde.
Les poils dans les oreilles.
De la merde, de la merde.
Et radio, Bulle éphémère.
Ça, oui, c'est du bon travail.
T'es pas contenté d'acheter les disques, on a aussi acheté la platine à Emmaüs.
Et puis il y a aussi une équipe pédagogique et il y a Catherine.
Et là c'est Catherine.
Écoute, notre secrétaire.
Ça serait bien que tu me rappelles, je suis là au moins jusqu'à -4.
Il y a aussi Mélanie, il y a Alex, il y a Denis, le directeur. Avant lui il y avait Jacques Lavergne, je parlais d'éducation populaire et qui vient de là. Il y a Raphaël en 2e année. Et bien moi je suis super content d'y être passé et je crois que ça m'aide aujourd'hui à savoir un peu où je veux aller dans un champ créatif et ouvert, mais à essayer de trouver les moyens de mon autonomie et de mon indépendance. Donc merci au Créadoc, longue vie au Créadoc.
Alors Denis Bourgeois, vous êtes responsable de la formation du Créadoc. Là, on retourne vers Poitiers, parce qu'en fait, le Créadoc dépend de l'université de Poitiers. Comment ça fonctionne exactement ?
C'est un master qui est installé dans la cité de la BD à Angoulême, mais effectivement qui dépend de l'université de Poitiers, qui était au départ installée sur le Futuroscope il y a bien longtemps, et qui ensuite, au moment où ils ont créé le pôle de formation à l'image à Angoulême, est venu s'installer à Angoulême.
Alors ça existe depuis 25 ans, c'est ça, le Créadoc en tant que tel, à Poitiers d'abord et aujourd'hui à Angoulême?
C'était la première formation universitaire en documentaire de création à l'université en France. Et ça avait été monté par un ancien de la bande à lumière qui s'appelle Jacques Lavergne et qui est un ancien aussi de l'éducation populaire, jeunesse et sport, le GFN et tous ces mouvements-là. Tout s'est passé un peu par hasard. Au début, c'était une formation uniquement à l'image, un DESS de réalisation de films documentaires. Et quand on est passé en master, on s'est dit bah, le son, c'est important dans le documentaire. Et on va consacrer toute une année au son, la première année. Et on a été très naïvement parce qu'on s'est aperçu tout de suite que le son tout seul, ça ne fonctionnait pas comme le son à l'image. Et du coup, on a tout découvert en même temps. Et puis, il y a les vieux de la vieille, de la radio, de France Inter, qui sont intéressés à la formation, type Robert Arnault, notre ami Guy Senot, qui a beaucoup fait pour la formation. Et on leur a posé la question la première année, quand on a monté la formation. Avant de la monter, on s'est dit, ben, on va peut-être faire une formation en 2 ans au son, en création sonore. Et ils nous ont dit, non, mais vous êtes fous, il n'y a pas assez de boulot en radio, et c'est très bien qu'ils fassent de l'image en deuxième année parce que c'est ce qui leur donnera de quoi manger. Donc on est resté sur ce principe, première année au son et deuxième année à l'image. Et on s'est aperçu que le son, c'était hyper plastique, et d'un point de vue narratif, c'était bah, alors que l'appareillage de tournage film était très lourd, avoir juste un enregistreur, pouvoir se promener avec un enregistreur, ça faisait qu'on pouvait faire, on pouvait tout de suite enregistrer des voix, les monter, réfléchir à la narration documentaire, et du coup aller beaucoup plus vite. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que je ne sais pas de quand date Longueur d'onde à Brest, mais dès qu'ils ont fait un Grand Prix Nagra de la meilleure réalisation radiophonique, la première année, c'est un étudiant de chez nous qui l'a eu. Et ensuite, on a fait aussi un partenariat avec France Culture, donc il y avait les docs du Créadoc sur France Culture. Et puis, comme c'était un peu la seule formation à la réalisation radio, on a eu plein de gens qui sont venus nous voir. Bah, il y avait René Farabek est venu, Kate Mortlet, Mehdi Eladj, qui est venu aussi, qui est venu au début chez nous. Là, actuellement, il y a Gilles Mardi-Rossian, il y a Jean-Philippe Navarre, il y a un certain Antoine Chao. Voilà, il y a plein de gens qui viennent voir ce qu'on fait et avec qui on partage des choses autour de la radio.
Alors aujourd'hui, c'est devenu une référence, notamment en son. Alors en image, je ne sais pas, peut-être aussi, mais sur la création sonore. Et bizarrement, il y a des difficultés. Il y a eu de la contestation en début d'année par les étudiants qui s'inquiétaient de ne pas pouvoir étudier, de ne pas pouvoir apprendre comme ils voudraient, un manque d'intervenants, etc. Ça en est où alors? Où en est le Créadoc aujourd'hui?
Ouais, c'est assez compliqué hein, parce que il y a cette réforme qui s'appelle LRU, Pécresse, qui date d'il y a 10 ans d'autonomie des universités, mais qui a abouti progressivement à une réduction des moyens des universités, et du coup au niveau des diplômes aussi, de reconcentration des diplômes. Et nous, on a été pris dans ce maelstrom-là. Et en fait, c'est tout petit le documentaire, ça a toujours été un objet de résistance, et en même temps assez marginal. Donc ça n'a jamais été une discipline académique, le documentaire. Ce qui fait qu'on est toujours un peu toléré sans être totalement... accepté. Puis après, il y a la question des formations à la création, quoi. En France, il y a une séparation entre, d'un côté, le ministère de la Culture et de l'autre côté, le ministère de l'Éducation nationale. Et les formations à la création sont plutôt avec le ministère de la Culture, les écoles d'art. Donc, qu'est-ce que fait une formation à la création à l'université? C'est toujours un peu compliqué. Après, on espère qu'on va réussir à survivre et puis à poursuivre et à faire des choses bien. Pour l'instant, on n'a pas une visibilité, on va dire, claire sur notre avenir. Voilà.
Je m'appelle Marie et j'ai 22 ans. Je suis la plus jeune du Créadoc. Parce que j'ai découvert un peu qui j'étais et de quoi j'étais capable. Et j'ai arrêté de douter en permanence de ce que je pouvais faire. L'année dernière, j'ai travaillé sur le slut-shaming, qui est un terme désignant la stigmatisation qu'on fait des femmes. Par exemple, quand on dit qu'une femme est une salope et qu'un mec n'est pas une salope, c'est du slut-shaming. Et du coup, moi, j'ai travaillé sur ça et comme ça, ça m'a permis d'exprimer toute cette colère féministe que j'ai en moi. Donc voilà, du coup, pour moi, c'est un outil, en fait. Le Créadoc, c'est un outil politique. Et un outil de création artistique, parce qu'avant j'étais aux Beaux-Arts et j'avais envie de garder quand même quelque chose de... créer du sensible, quoi.
Mais c'est quoi qui est un outil politique ? C'est le Créadoc ou c'est le documentaire de création ?
C'est le documentaire sonore, en tout cas pour moi, qui est un outil politique. Après, je déplore un peu que ça soit si peu démocratisé. Je pense que c'est un peu à nous, notre génération, là, d'étudiants du Créadoc, de trouver des moyens de diffusion, en fait, un peu plus... large et toucher plus de publics et plus de différents publics. On fait des documentaires, on fait du cinéma d'oreille.
Du cinéma d'oreille.
Oui. L'étiquette. Une pièce sonore sur un scénario de Marie Roland, réalisé par Nikita Cholon et Marie Roland.
Je vais vous faire écouter...
Très tôt dans ma vie, j'ai été attirée par les garçons.
Un petit extrait de L'étiquette, une pièce sonore réalisée avec des... étudiants comédiens du Théâtre National de Bretagne, en fin de première année.
Déjà, à l'école maternelle, je me mariais souvent.
Morceau choisi.
Dans la cabane de la cour de récré. On célébrait des mariages. Moi, l'épouse des garçons, différent à chaque fois. Dans la cabane en question, on simulait des scènes d'amour tout habillées, comme on voyait dans les films. Pour moi, faire l'amour, c'était rouler l'un sur l'autre, allongé, avec ses vêtements, en se faisant des bisous. Lucas.
C'était comme un bruit qui court. Merci à toutes et à tous et à l'équipe du Créadoc. Retrouvez les informations sur le site franceinter.fr et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.